Bienvenue sur l'orage dans l'émission Radio Foot, l'émission 100% foot.
Sur 99.1 FM ou sur www.la-rage.fr tous les samedis à 14h et à 19h. Bonjour à tous, c'est Clément
Baptiste
dans Radio Foot, l'émission 100% foot au Collège Val-de-Lande. Aujourd'hui, nous allons interviewer Maxime Taldir.
Bonjour.
Journaliste sportif.
Alors, pour commencer, quel est ton âge ?
Alors, j'ai 20 ans, je vais avoir bientôt 21 ans, mais pour l'instant j'ai 20 ans.
Quelle est ta passion ?
Alors, j'aime le sport, le foot, comme vous, hein, comme ce dont vous débattez tous les jours, ou toutes les semaines plutôt. Oui, le sport, le vélo, mais de manière générale, je m'intéresse à peu près à tout, et puis dans le métier de journalisme et de journaliste, il faut s'intéresser à tout de toute manière, ouais. Donc c'est ça qui est passionnant dans ce métier, et c'est ça qui est intéressant.
On va parler un peu plus de ton parcours scolaire. Donc tu sais, tout le monde, tous les troisièmes ont un stage à faire chaque fin d'année. Peux-tu nous dire où es-tu allé ton stage troisième ?
Alors moi je suis originaire de Bretagne, donc j'ai fait mon stage à France 3 Bretagne. Voilà, donc je suis allé dans la rédaction, suivre un journaliste pendant une semaine et puis découvrir un petit peu son métier, partir en reportage avec lui. Voilà, découvrir son métier comme un stage de troisième.
Ok. Dans quel lycée es-tu allé et quel bac as-tu fait pour essayer d'être journaliste ?
Alors, comme je vous disais, je suis originaire de Bretagne, donc de Vannes plus précisément. Donc j'étais au lycée Charles de Gaulle à Vannes, où j'ai passé tout mon lycée et j'ai passé un bac ES que j'ai eu avec mention très bien. J'espère que vous aurez ça aussi, les garçons. Donc voilà, j'ai fait un bac ES et puis ensuite j'ai poursuivi vers des études.
Donc d'après ce que tu nous dis, t'étais un élève modèle à l'école.
Modèle, c'est difficile à dire qu'on est un élève modèle soi-même, mais on va dire que oui, j'avais des bonnes notes, j'écoutais en classe, j'étais plutôt sage, donc oui, on va dire que j'étais un élève modèle.
Et dans tes études, après, tu t'es orienté vers quoi ?
Alors directement après, je suis allé à l'école de journalisme de Tours, donc j'ai passé le concours, donc il y avait un oral, un écrit, il y avait un peu plus de 600 candidatures, je crois. Il y avait 25 places et j'étais sur la liste d'attente. Mais j'étais pris finalement et donc je suis arrivé à Tours pour faire un DUT information communication option journalisme à l'école de journalisme à Tours. Donc j'ai eu ce DUT l'année dernière et cette année je suis en licence pro radio. Donc je poursuis le cursus du DUT et donc je suis en licence pro radio.
Aimerais-tu faire de la télévision ou préfères-tu la radio ?
Alors j'ai eu à choisir entre radio, télé ou presse écrite, et j'ai choisi radio parce que je préfère la radio, c'est ce que je préfère, la voix, j'aime bien ça, mais l'image aussi j'aime bien ça, et la télé, j'ai toujours bien aimé ça aussi la télé, mais j'ai choisi la radio, et donc à l'avenir j'espère faire les deux, travailler et à la radio et à la télé, parce que c'est les deux médias que j'aime bien et dans lesquels j'aimerais travailler.
Et du coup, quelle chaîne de préférence ? Rester à RMC ou autre.
Je crois qu'on va en parler juste après. Je vais commencer à travailler vers RMC, donc qui a la particularité de fonctionner en plurimédia. Donc on fait un petit peu de télé, un petit peu de radio, un petit peu de web, un petit peu d'écrit sans doute aussi. Et donc c'est ce qui me convient. Donc pour l'instant, je vais partir vers là-bas et j'espère que ça va se continuer le plus longtemps possible et puis continuer dans la radio, la télé, si c'est pas avec RMC, mais j'espère que ça continuera avec RMC le plus longtemps possible.
As-tu un idole dans le monde de la radio ou de la télévision ?
Je sais pas si ça vous parlait parce que vous êtes peut-être un peu jeune, mais quand j'étais au collège comme vous, j'écoutais RTL le soir, il y avait le foot tous les soirs, et j'écoutais Christophe Paco. Je sais pas si ça vous parle, mais
non,
il fait plus le sport maintenant, il fait le soir, une émission d'information, qui a une voix très particulière et qui débattait de foot, et puis ces émissions qui m'ont donné envie de faire du journalisme et de la radio. Il débattait comme vous le faites dans vos émissions, donc vous êtes les petits Christophe Paco, et voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la radio, et ensuite je l'avais rencontré, je lui avais dit que j'avais voulu faire du journalisme grâce à lui, et il m'avait dit fonce, vas-y, il faut travailler, c'est dur, mais vas-y, si t'y crois, vas-y, et puis j'ai continué, et puis pour l'instant ça marche.
Bah c'est cool. Si jamais faudrait que tu fasses des émissions, tu préférerais parler de quel sport en particulier ou...
Alors j'ai toujours fait du foot, donc le foot a une place particulière pour moi, mais j'aime vraiment beaucoup le vélo, c'est une passion qui m'est venue, j'ai regardé le Tour de France avec mon grand-père sans doute, et puis c'est continué, et puis j'ai adoré ça, et donc ça continue, donc si je devais animer une émission, ce serait plus du vélo, parce qu'il y en a pas énormément, enfin de comme ça j'en vois pas énormément, ou juste des chroniques, que si c'était une émission, je pense que ce serait du vélo.
As-tu un idole dans le monde du sport? Un joueur que tu aimes bien?
C'est compliqué, hein, parce qu'il faut choisir un sport déjà pour avoir un idole. Si on est dans le foot, bah, je serais pas très original en disant par exemple Zidane, parce que mes premiers souvenirs de foot, c'est la Coupe du Monde 2006 et voilà le coup de boule de Zidane. Si on va vers le vélo, je suis breton, donc il y a des coureurs historiques que j'aime pas connus, comme Bernard Hinault, qui ont un palmarès légendaire, donc qui sont forcément des idoles, même si on les a pas connus. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un comme Warren Barguil, qui est aussi breton, ouais, qui vient d'un côté de chez moi, qui a une manière de courir que j'aime bien, qui attaque, qu'il est plutôt sympa à regarder, et puis qui a plutôt des bons résultats, donc ça fait plaisir.
Que penses-tu du foot, donc dans le sport et aussi à l'extérieur, parce qu'il y a en ce moment beaucoup de faits divers?
Dans le sport, bah ça va très bien. Si on parle de championnat de France, bah l'arrivée de Neymar a permis de donner un nouveau souffle, et puis j'ai l'impression que ça se professionnalise, ou ça prend une autre dimension, la Ligue 1 en ce moment. Après, l'extra sportif, il y a toujours un peu de ça. Ça gâche parfois un petit peu le spectacle footballistique, ça gâche un petit peu ce qui se passe sur le terrain, c'est dommage. Faudrait essayer d'embellir justement ce qu'il y a sur le terrain et essayer de faire abstraction de ces affaires, ou bah, essayer de les enlever, parce que ça nuit au sport, ça gâche le spectacle, donc c'est dommage pour le foot.
Est-ce qu'à un moment tu as voulu faire un autre métier que journaliste?
Alors on va en parler après de mon aventure à RMC. Quand j'ai passé mon entretien, ils m'ont posé la question. J'ai répondu ça aussi loin que je me souvienne. C'est en CM2, je crois. On devait remplir une feuille où on met qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et on mettait tous joueur de foot. On veut tous devenir joueur de foot parce qu'on joue au foot dans la cour, on joue au foot ensemble. Et puis je me suis rendu compte peut-être avant les autres, j'ai eu peut-être un peu plus de lucidité que les autres à me dire que ce serait pas possible, et que pour continuer à côtoyer les terrains, les sportifs, le métier de journaliste c'est quand même bien. Et puis j'ai continué, ça m'a plu, et puis ça m'a jamais lâché depuis. Du coup, je sais pas quel âge j'avais, mais la primaire.
Pour le futur, aimerais-tu changer de métier ou garder le même, et si oui, où?
J'ai pas de raison pour l'instant de changer de métier, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Pour l'instant ça me plaît, je vais démarrer une nouvelle aventure, normalement ça va me plaire, j'ai pas de raison que ça me plaise pas non plus, et j'espère que ça continuera, et puis oui, pour l'instant je vois pas pourquoi je changerais de métier, je suis très content avec ça.
Donc on va parler de ton concours que tu as gagné pour aller chez RMC Sport. Comment t'as su qu'il y avait un concours et comment tu t'y es pris?
Alors les rédactions, de manière générale, que ce soit télé, radio ou presse écrite, organisent tous les ans des concours proposés aux étudiants des écoles de journalisme. Donc il y a 14 écoles de journalisme partout en France. Et chaque école envoie une personne ou deux selon les concours pour passer ce concours justement. Donc à RMC Sport, donc j'y suis allé. Et donc il y avait plusieurs épreuves. D'abord une épreuve physique. On avait un reportage radio à faire de 1 minute. Plus un duplex télé de 50 secondes et ce qu'on appelle un papier, donc où on parle tout seul au micro, de 40 secondes je crois. Donc voilà, et donc on est arrivé, on savait qu'on avait ça à faire et ils nous ont donné on est arrivé le matin et ils nous ont donné le thème. Donc le thème c'était la pratique du sport à Paris. Donc à partir de là, à nous de trouver une idée originale de reportage, d'aller le tourner et de rendre il était midi quand ils nous ont donné le sujet et de rendre tout ça à 20h. Je connaissais pas spécialement Paris, mais j'ai cherché. Et il y avait un salon à ce moment-là, juste à côté, qui était le salon des seniors. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire sur la pratique du sport des seniors à Paris. Donc j'ai cherché et j'ai vu que la mairie de Paris proposait des activités pour les seniors gratuites. J'ai regardé le programme, j'ai vu 14h, marche nordique. Donc j'ai pris mon micro et je suis parti directement. Donc j'ai fait de la marche nordique avec des seniors dans le jardin du Luxembourg. On a fait 7-8 kilomètres. Mais c'était sympa parce que les seniors ont toujours beaucoup de choses à raconter et puis ils étaient contents et donc une fois qu'on a fini notre petit tour de marche nordique, je suis vite revenu à la rédaction pour monter tout ça, pour écrire, faire mon duplex. Et puis j'étais plutôt content de moi. Et le lendemain matin, on passait chacun notre tour pour passer un oral face à un jury. Donc il y avait 8 personnes avec tous les hauts gradés de RMC Sport, les directeurs, les rédacteurs en chef. Donc on rentre dans la salle, ils ont écouté ce qu'on disait juste avant, enfin ils ont écouté nos sujets juste avant, on rentre et puis bah ils nous bombardent de questions là-dessus, savoir pourquoi on a fait ça. Voilà, et donc je me souviendrai, je pense toujours, un moment sur ma droite, il y en a un qui demande est-ce que j'ai pris du plaisir à faire ça, j'ai dit oui, ils m'ont dit ça 100 ans, et là je me suis dit, je suis plutôt confiant, ils m'ont dit que c'était très bien, et ensuite ils m'ont parlé de ma vie, mes projets, savoir ce que je faisais dans la vie, pourquoi RMC Sport, voilà. Et puis un peu, une fois que tout le monde était passé, il était vers midi et demi du coup le lendemain, ils nous ont tous réunis dans une salle pour annoncer les vainqueurs. Donc ça fait monter le suspense un petit peu en disant que finalement il y aurait deux deuxièmes qui auront des contrats des CDD d'un mois, le premier gagnant un CDD de 3 mois. Donc ils ont fait monter la pression un petit peu, et puis ils ont annoncé mon nom. Donc j'étais content.
Normal.
Même si j'avais un peu de mal à réaliser, et puis bah oui, j'ai eu du mal à réaliser, et tout de suite plein de messages, plein de SMS sur Twitter, plein de messages, c'est ça fait plaisir de recevoir tout ce flot d'amour d'un coup. Et puis bah voilà, donc à partir du 1er juin normalement je commence l'aventure RMC Sport, donc je commencerai à travailler là-bas. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je serai reporter, mais je sais pas trop ce que je vais courir, mais il y a un programme chargé. Il y aura la fin de Roland Garros, le Tour de France, la Coupe du Monde. Je partirai pas en Russie normalement, donc
dommage.
Je resterai en France, mais ça va être sympa. Et puis ouais, j'espère que normalement je finis du coup fin août, et j'espère que ça continuera ensuite l'aventure avec RMC Sport. Directement après l'école, gagner une bourse comme ça, c'est vraiment parfait. Et puis j'ai profité pour glisser un mot à mes deux camarades qui ont aussi gagné des bourses, Léna et Philippine, qui ont gagné à France Télévisions et à BFM, donc c'est un bon cru cette année pour notre classe. Et bah elles aussi ont gagné des contrats, et donc c'est super, on est tous contents, et on a du travail juste après, donc c'est parfait.
Bien, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. On va enchaîner sur notre émission quotidienne où on parlera de la Ligue 1, des classements, où on parlera de la Ligue des Champions avec la finale, Real-Juve. On enchaînera sur la Coupe du Monde avec nos pronostics.
Donc on va parler du classement Ligue 1. Donc la fin du championnat qui s'est passé, le Paris Saint-Germain qui est premier, logique avec beaucoup de points d'avance. Derrière Monaco et Lyon, et enfin l'Olympique de Marseille qui est sur la 4e place. Ton avis sur ce podium ?
À moi, Paris premier, c'est tout à fait logique. C'est leur place de premier. L'année dernière, c'était une erreur de parcours, on va dire, de finir deuxième. Et cette année, bon, c'est logique qu'ils soient premiers. Après, la lutte a été serrée, mais je pense que le classement est logique. Monaco a été deuxième presque toute la saison avant de se faire rattraper. Mais bon, les champions en titre, ils ont leur place et deuxième place.
Des dauphins, ouais.
Et troisième, c'était
très serré.
Jusqu'à la fin du
50-50, ouais. Je pense, entre Marseille et Lyon. Peut-être que Marseille a mis l'avantage sur la Ligue Europa pour aller la gagner, donc c'était physiquement plus compliqué pour la troisième place. Et puis Lyon, finit la saison en trombe en gagnant sur des scores hallucinants,
oui,
sur les derniers matchs. Donc voilà, je pense que le classement est logique, et puis l'écart de points aussi. Assez serré. Je pense que ce haut de classement est assez cohérent.
Ouais, si l'Olympique de Marseille n'aurait pas joué la Ligue Europa, je pense qu'ils auraient été troisième. Après, comme tu l'as dit, ça les a un peu cuits, et physiquement, l'OL a voulu tout miser sur garder cette troisième place, et donc après, jouer les barrages pour aller en Ligue des Champions.
Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, de toute façon, c'était à prévoir. Avec cette finale de Ligue Europa, ils ont tout misé, même si on savait d'avance que ça allait être très compliqué. Après, ils ont eu l'espoir quand il y a eu 3-2. Quand il y a eu 3-1 pour Lyon, on a cru que c'était fini. Lyon s'est fait peur, mais Marseille a perdu des points en route à cause de la Ligue Europa. Donc, c'est normal au final, mais c'est difficile pour eux.
On revient sur le match de la Ligue Europa avec Marseille qui a complètement été inférieur par rapport à l'Atlético Madrid. Donc, tout le monde le savait que ça allait être mission impossible. Des joueurs de l'Atlético qui voyaient qu'ils avaient envie. Après, les joueurs de Marseille, je les ai trouvés un peu moyens par rapport aux autres matchs.
On a cru que c'était possible. Germain a loupé une occasion de but à la 3e minute. S'il y a but, ça change tout. Donc, c'était possible, mais ils n'ont pas été assez efficaces. Bah, toi, t'en as pensé quoi de cette finale?
Oui, bah, comme tu dis, l'action de Germain a, je pense, changé le match. Je pense qu'il y avait des chances au début. C'est un match, il y a 90 minutes, des petits clubs peuvent battre les grands. C'est la magie de la Coupe de France. Là, c'est pas la Coupe de France, c'est la Coupe d'Europe. Mais les clubs, a priori inférieurs, peuvent gagner sur un match. Ils sont rentrés dans le match, ils étaient carrément dominateurs, Marseille, hein, pendant le premier quart d'heure. Ouais. Le match, il était à sens unique.
On a eu 20 minutes où l'Atlético était dominé.
Et si Germain marque, je pense que ça change le match. Après, bah, ils font une erreur, ça se paye cash. Enfin, c'est des équipes comme ça. Deux erreurs, ça se paye cash. Et puis, bah, après, ils ont lâché pour un troisième but. Mais si dans le premier quart d'heure, il y a un but ou deux, le match, je pense.
Oui, il y avait la place, hein, mais fallait marquer.
L'Atlético, eux, leur point fort, c'est laisser la balle aux adversaires pour après mettre un contre avec deux attaquants en feu. Et c'est ce qui s'est passé. Les erreurs, ils les ont payées, comme tu as dit, cash. Et après, Marseille qui s'est complètement écroulé, et ils ont perdu tout espoir, et après l'Atlético Madrid maîtrisait le jeu et avait plus qu'à posséder le ballon et à terminer, quoi.
On repart sur notre championnat avec les équipes qualifiées pour la Ligue Europa. Du coup, Marseille et Rennes seront directement qualifiées et Bordeaux aura 3 tours de qualification. Qu'en penses-tu? C'est normal, les places?
Oui, bah Bordeaux, je pense pas qu'ils vont pouvoir y aller, hein.
Et pourquoi donc?
Pour moi, ils sont un petit peu inférieurs. Ils ont pas leur place en Ligue Europa. Vu cette saison, ils ont fait une moyenne saison par rapport à avant. Et je pense pas qu'ils vont pouvoir réussir à aller en Ligue Europa.
T'es sûr, 3 tours, c'est long, mais c'est possible. Après, déjà, si on y est, moi, j'ai pas l'objectif qu'on aille très très loin, hein, donc...
Tu serais content.
Après, on parle un peu de maintien. Du coup, avec notamment Lille qui s'est maintenue malgré une défaite 5-0 contre Saint-Etienne au dernier match. Du coup, les relégués sont Metz et Toulouse.
Toulouse qui joue les barrages.
Oui, Toulouse joue les barrages. Et Troyes est relégué avec Metz.
Toulouse qui a gagné son premier match contre Ajaccio, non? Oui, c'est ça, Ajaccio. Ils vont donc rejouer le match retour chez eux. Donc on espère pour eux qu'ils gagnent et pour qu'ils restent en Ligue 1.
Toi, t'en penses quoi de ces équipes reléguées?
Ça a été serré jusqu'au bout. Metz, ils ont été derniers toute la saison, donc ça me paraît assez logique, même s'ils revenaient bien. Et puis finalement, ils n'avaient pas une équipe aussi horrible que ça. C'est le nombre de points qu'ils ont et pas forcément mérité. Après, au-dessus, ça s'est joué sur les trois derniers matchs. Trois, ils font, chaque fois qu'ils montent, ils descendent l'année d'après. Donc, voilà, c'est une équipe de bas de Ligue 1 et haut de Ligue 2. On sait pas vraiment où la situer. Elle aussi entre les deux. Et y en a d'autres. Metz, c'est pareil. Reims qui va monter, c'est à peu près pareil. C'est des équipes qui sont à un niveau intermédiaire et qui font l'ascenseur tous les ans. Après, c'était la place de barragiste qui était surtout disputée. Il y avait Caen qui ne gagnait plus du tout, donc qui s'est retrouvé à la dernière journée à la limite de descendre. Toulouse qui était en situation compliquée depuis le début de la saison et Lille aussi. Personnellement, je voulais pas que Lille descende parce que je les aime particulièrement, mais bon, ils ont une bonne équipe et puis c'est un club historique de la Ligue 1, donc ça ferait un petit pincement au cœur de les voir descendre. C'était pareil pour Toulouse, mais comme ils ont la place de barragiste et au vu de leurs résultats, c'était hier soir 3-0, je pense que ils devraient rester en Ligue 1 avec ce résultat.
Ils ont joué sur.
Et tu ne nous as pas dit, est-ce que tu as une équipe préférée en Ligue 1?
En première année de l'école de journalisme, j'ai fait un stage au Courrier de l'Ouest à Angers où je suivais le SCO. Donc le SCO, j'aime bien le SCO, je suis le résultat du SCO. Après, je viens d'à côté de Lorient, donc Lorient qui était en Ligue 1, qui est maintenant en Ligue 2. C'est dommage qu'ils soient pas montés, parce que bon, ils ont un très beau jeu, c'est un accident de parcours aussi, la descente. Là, la montée, ça s'est joué à pas grand chose, donc voilà, s'il y a deux clubs pour l'instant, Lorient, Angers, et puis côté breton, Guingamp en plus.
Et maintenant, on va passer sur la finale de la Ligue des Champions avec Real-Liverpool, vos pronostics?
Alors pour moi, un match très serré avec une équipe de Liverpool qui est en forme, un Mohamed Salah qui est juste exceptionnel, même si je pense que ça va être compliqué parce que le Real de Madrid est pour moi la meilleure équipe d'Europe. Je pense quand même une victoire du Real de Madrid, mais 2-0 ou 2-1.
Toi, Maxime, qu'en penses-tu ?
Je pense que je réfléchis comme toutes les équipes d'Europe et tous les supporters d'Europe à se dire que ce serait quand même beau de voir Liverpool gagner, surtout avec le parcours qu'ils ont eu, avec les résultats en championnat qu'ils ont, avec l'attaque qu'ils ont, parce que dès qu'en défense ils récupèrent un ballon, 3 secondes plus tard le ballon est dans le but en face, donc ça va à 2000 à l'heure, ça fait but presque à chaque fois, donc ce serait quand même vraiment très beau. Mais en face c'est le Real, et le Real, ben peu importe les ans, ça reste le Real, ça gagne tout, enfin presque tout, ça va loin. Ça va être un match moins déséquilibré peut-être que la Ligue Europa, mais un pronostic c'est compliqué. J'aimerais voir Liverpool gagner. Je pense qu'au moins les deux équipes vont marquer. Après, le score...
Ça va encore se jouer dans les prolongations ou les pénaux.
Moi, j'aimerais bien voir Liverpool gagner, mais je mise sur une victoire 4-2 du Real.
Oula. Pour moi, le cœur penche vers Liverpool, mais la raison, je pense que ce sera le Real.
Comme tout le monde.
Bon, on enchaîne sur un petit point mercato, avec deux informations, avec Unai Emery qui signe à Arsenal. Que pensez-vous de ce transfert ?
Bah déjà, c'était sûr qu'il allait partir, parce que donc il était déjà en fin de contrat, il s'entendait pas avec le président, donc c'était logique. Après, Liverpool, c'est plutôt bien pour lui, parce que c'est Arsenal. Toujours...
Arsenal.
Arsenal, oui, c'est une belle équipe, donc Arsène Wenger qui part, qui va, je sais plus où il va, enfin bref.
Pour l'instant, il a pas parlé de son futur.
Et donc c'est plutôt pas mal pour lui. Il a en moins une bonne équipe. Va falloir qu'il la reconstruise, parce qu'en ce moment c'est un peu moyen.
Et toi, Maxime, que penses-tu du transfert ?
Oui, de toute façon, Emery partait de Paris et Wenger partait d'Arsenal, donc fallait un nouvel entraîneur. Il y avait des pistes. Il y avait Patrick Vieira par exemple. Il y avait un adjoint de Guardiola qui était dans les favoris, et puis moi ce qui m'a surpris c'est de voir la vitesse à laquelle ça s'est fait, ou en tout cas le secret qu'ils ont gardé s'ils discutaient déjà avant, parce que ça s'est su presque du jour au lendemain. On a dit Emery discutait avec Arsenal, et 2 jours plus tard c'est bon, il a signé, alors qu'il était à peine parti de Paris. Donc voilà, ce qui m'a surpris c'est la vitesse, mais c'est un bon choix pour Arsenal, parce qu'Emery a gagné 3 Ligues Europa avec Séville. Quoi qu'on en dise, à Paris, il a gagné 7 trophées, je crois. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui pourraient dire « j'ai gagné 7 trophées en 2 saisons ». Donc, ça reste quand même un très grand entraîneur.
Et il a quand même gagné le trophée Ligue 1 du meilleur entraîneur. Pour moi, je suis pas trop d'accord, parce que même si c'est un bon entraîneur, il avait la plus forte équipe de France. Mais pour moi, il ne mérite pas ce trophée. Je l'aurais plus donné à Rudy Garcia, parce que Rudy Garcia, on voyait qu'il était là, remotiver ses troupes. En Ligue Europa, on l'a vu, il était toujours présent, dans les vestiaires, ça criait et tout. Et pour moi, je l'aurais plus donné à Rudy Garcia que Unai Emery.
Sauf que dans le vote, c'est Ligue 1. Ils prennent pas en compte la Ligue Europa, importe le parcours qu'il y a eu en Ligue Europa, c'est les résultats, c'est Ligue 1. Je l'aurais peut-être donné à Rudy Garcia aussi, dans la dynamique qu'il insuffle au vestiaire, la dynamique qu'il a su insuffler dans le vestiaire. Quand on voyait les résultats, qu'il perdait à Dijon à 5 minutes de la fin et puis qu'il remonte. Enfin voilà, c'est sur des matchs comme ça où on voit que les choix de l'entraîneur sont payants. Après, quand on regarde les résultats, bah évidemment, c'est Emery qui est premier. Le Paris est premier au classement, il gagne toutes les coupes. Enfin voilà, il n'y a pas de débat. Pareil avec Neymar, si on cumule les résultats sur une demi-saison, même sur la saison entière, c'est lui, si on cumule but et passe décisive, il est premier, et il a fait qu'une demi-saison. Donc, quoi qu'on en dise, ça restait le meilleur joueur.
Après, on parle aussi d'un autre transfert avec Carlo Ancelotti qui signe à Naples. Un point sur ce transfert.
Moi, j'ai vu l'information, j'ai pas suivi, je sais que Naples a fait une très bonne saison. Ancelotti, grand entraîneur, je pense que les deux peuvent être compatibles. Après, je connais pas du tout le jeu de Naples et le jeu d'Ancelotti un petit peu, mais évidemment, quand on recrute Ancelotti, c'est qu'on a de grandes ambitions, et puis c'est jamais un mauvais choix de recruter Ancelotti.
Et parce que Naples a fait une très bonne saison cette année, il leur a manqué quelques petits points en fin d'année. Ancelotti, il peut entraîner l'expérience et remotiver bien ses joueurs, donc je pense que ça peut être que bénéfique pour Naples.
Ouais, c'est une très bon recrutement. Pour moi, l'année prochaine, Naples peut gagner la Serie A, car comme vous l'avez dit, ils ont fait une énorme saison. La Juventus, qui est favori à chaque fois, mais l'année prochaine, ça sera très serré à mon goût.
Et pour finir l'émission, on va parler un peu de Coupe du Monde avec nos pronostics et quelles équipes on pourrait rencontrer dans les tours suivants. Un pronostic pour toi ?
Pour moi, la France ira en finale. Je les sens bien.
Sachant qu'en quart de finale, la France peut affronter l'Espagne ou le Portugal, il ferait mieux pour les Français affronter le Portugal.
Portugal, ouais.
Après, moi, je sais pas si pour tu préfères affronter l'Espagne ou le Portugal.
Pour moi, l'Espagne, c'est l'équipe favorite et c'est celle qui peut gagner cette Coupe du Monde. Ils ont juste, pour moi, la meilleure équipe, que ce soit défense, gardien, milieu ou attaque. Ils sont exceptionnels, quoi.
Ouais, les meilleures équipes, c'est Brésil, Espagne, Brésil, ouais. Allemagne, peut-être. Même si je les sens peut-être un peu moins forts qu'en 2014.
Ouais.
Et qu'on les avait, psychologiquement, on les a battus à l'Euro, donc voilà.
De toute façon, on s'était fait éliminer, on s'était fait voler par l'arbitrage, donc c'est facile de gagner des matchs comme ça, donc.
À l'Euro ?
Non, en Coupe du Monde 2014.
Ah. Oui.
Alors, il faut se dire qu'ils sont allés au bout et qu'ils déméritaient pas finalement leur résultat. Mais oui, les favoris Espagne, Brésil, Allemagne et puis bah la France juste derrière.
Outsider,
sachant qu'on peut affronter le Brésil en demi, donc.
Et oui, mais
la finale.
On va falloir sortir le grand jeu.
Portugal, Espagne, Brésil, c'est compliqué. Hein.
Mais ça vous rappelle pas un parcours de Coupe du Monde, ça, le Portugal, Espagne, Allemagne, Brésil? C'est 2006, et 2006, on va en finale. Donc, si ça se répète, ce serait pas mal. Au moins, sortir des poules, je pense que ça devrait le faire.
Mais on n'a pas les mêmes joueurs. Et les équipes adverses sont plus...
Cossini
évoluées, j'ai l'impression. Parce que le Brésil, bon, c'est même niveau. Déjà, c'était fort en 2006. Mais je pense que l'Espagne est plus forte. Donc, il faut mieux pas affronter l'Espagne en quart de finale. Hein. Moi,
Non. Ça serait...
Ouais. Après, c'est toujours pareil, c'est un match, bah, c'est jouable, hein. En amical, on est capable de les battre, donc sur un match de Coupe du Monde, on est capable de les battre aussi, on a toutes les qualités, pour les battre. En défense, on dit que c'est le point critique de l'équipe de France. Je pense que, bah, on a des joueurs qui jouent dans des clubs, dont on parle sur les plus hautes marches de l'Europe.
Oui, Varane Joral, mais je trouve qu'en équipe de France, quand même, il laisse à désirer. Hein.
Cossini qui sera absent aussi.
Varane, quand même, déçoit en équipe de France. Hein.
Après, la Coupe du Monde n'est pas passée, on verra à la Coupe du Monde, mais de toute façon, j'aurais mis Umtiti Varane en défense, j'aurais pas mis forcément Cossini. Donc, cette charnière, ben, c'est peut-être une des meilleures d'Europe, voire du monde en équipe nationale. Au milieu, on a un des meilleurs systèmes au milieu. Matuidi, Pogba, Kanté. Et puis en attaque, on a une, voire la meilleure attaque du monde au niveau des équipes nationales. Donc si avec tout ça, on va pas loin, et je comprends pas. Et puis avec toutes ces qualités-là, on est carrément en mesure de gagner cette Coupe du Monde.
Par exemple, ça me surprendrait plus de perdre face au Portugal que contre l'Espagne. Parce que le Portugal... Je trouve pas que c'est extraordinaire. Hein. Y a
déjà,
Ronaldo,
Portugal, va falloir qu'ils sortent de poule. Hein.
Parce qu'ils sont avec l'Espagne en poule.
Mmh. Et ça, après, il y a l'Iran et une autre équipe, je ne sais plus. Bah, non, mais...
En 2014, le Portugal n'est pas passé en poule.
Mais je crois que...
Et en 2016, ce qui les a sauvés, c'est que les troisièmes, les meilleurs troisièmes,
ouais,
pouvaient passer.
Les troisièmes, ouais, c'est ça.
Et ils ont pratiquement pas gagné de match. Ils ont tout été au tir au but et... Mais bon, ça se joue comme ça aussi, les phases finales. Mmh. Hein. Ça peut se jouer au tir au but et puis on peut gagner comme ça. Mais oui, le Portugal sortira des poules, je pense, parce que les deux équipes avec l'Espagne sont faibles. Et voilà, donc Portugal va sortir, et puis bah, la France ira en finale et gagnera la Coupe du Monde.
On l'espère tous. Merci de nous avoir écoutés. C'était Clément,
Baptiste
et Maxime.
Dans Radio Foot, l'émission 100% Foot au Collège Val de Lande. On vous retrouve tous les samedis à 14h et à 19h. Salut.
Salut.